Infiltrée, une femme au stup. Le rallye des gazelles. La concierge de mon immeuble m'avait dit un jour « Votre pauvre chat, je l'entends pleurer quand je fais le ménage dans l'escalier. Elle est trop seule, cette bête. » Un collègue me parle alors d'une certaine Isabelle. Isabelle Rigogne, une fille formidable, lieutenant à la première DPJ, qui connaît quelqu'un qui cherche à donner un chaton. Mon ami et collègue Pierre-Jean la connaît aussi. Il m'invite à une fête pour les 40 ans d'un copain, où je pourrai la rencontrer. J'arrive à la soirée. Une fille magnifique, blonde, vient vers moi. C'est Isabelle. Nous avons la même taille, nous nous ressemblons étonnamment. À peine avons-nous fait connaissance que nous ne nous quittons plus. C'est une rencontre d'amitié aussi forte qu'une rencontre amoureuse. Nous discutons toute la soirée. Je ne danse plus, je l'écoute. Elle me parle de son rallye des gazelles, le seul rallye féminin dans le monde, en 4x4, dans le désert de Mauritanie, sans GPS, avec juste une boussole et une carte. Il faut faire les calculs et se diriger dans les dunes, sans assistance, sans rien. Je suis fascinée. Elle cherche encore des sponsors. Elle ajoute qu'elle ne veut pas repartir avec la même personne que la dernière fois. Je décide de participer au rallye. Je rentre chez moi à 4h du matin. J'ai oublié mon ressentiment au boulot. Dans ma tête, je passe en revue toutes les copines qui pourraient le faire avec moi. Je m'y vois déjà. Je fais des plans sur la comète. Et je m'endors vers des rêves de désert et de boussole. J'étais complètement fascinée par cette fille que j'avais trouvée belle et intelligente. Le lendemain, mon téléphone de bureau sonne. C'est Isabelle. Elle me dit « Je voulais te demander, tu n'es pas obligée de me répondre tout de suite, mais est-ce que tu veux bien être ma coéquipière au rallye des gazelles ? C'est avec toi que je veux partir. » Je crie « Banco ». Isabelle, c'était la sœur que je n'avais pas eue, ma sœur de cœur. Nous faisions un joli équipage, il faut l'avouer. Deux blondes qui n'avaient pas froid aux yeux. Isabelle ne travaillait pas dans les stupes, ce qui était très bien. Mais comme elle faisait le même métier que moi, nous étions dans une complicité totale. Le projet de rallye me fait oublier ma déception après le stage undercover. C'est une nouvelle passion qui chasse l'autre. J'ai décidément toujours besoin de passion dans ma vie. Je commence à parler du projet dans mon groupe. Certains disent que c'est n'importe quoi. Rien qu'une caravane publicitaire avec des gonzesses dans le désert. D'autres sont à fond avec moi. On demande l'autorisation de représenter la police française, ce qui est accepté. Il va falloir qu'on assure. La préparation du rallye va nous prendre 9 mois. Je rencontre régulièrement Isabelle à midi, si j'ai le temps. Et on se retrouve tous les week-ends. Elle m'explique en détail tout ce que nous avons à faire. Entre autres, trouver d'autres sponsors que Clarence, qui l'avait sponsorisé l'année d'avant et lui restait fidèle. On pense à GK, l'équipementier de la police nationale. Les holsters, les porte-cartes, les tenues d'intervention, tout vient de GK. On tente le coup et ils acceptent de nous fournir du matériel. Mon copain Pascal me présente alors à un ami qui tient un petit magasin dans le 91. Les années précédentes, il avait sponsorisé des footballeurs. Ça ne lui avait rien rapporté. Il se dit qu'avec nous, il se fera peut-être connaître. Ce premier rallye, beaucoup plus confidentiel que ceux qui suivront, est prévu en Mauritanie. Un garagiste d'Auvers-sur-Oise, spécialiste des Toyota, nous trouve une voiture. Elle date de 1971, n'a pas de direction assistée et pour l'instant, elle est en train de pourrir au milieu d'un champ de betteraves. Le mec la remet d'équerre, mais toujours sans direction assistée. D'ailleurs, nous allons revenir avec des bras de championne athlétique d'Allemagne de l'Est, d'avant la chute du mur. Peu à peu, nous engrangeons les sommes très modestes de nos petits sponsors que nous déposons soigneusement sur un compte spécial. Une fois inscrite et sûre de partir, nous partons faire un stage de conduite en 4x4 dans les Alpes. Isa l'a déjà fait, mais moi je n'ai jamais conduit de 4x4 de ma vie. Nous apprenons aussi à faire de la navigation terrestre et à utiliser une règle crasse. Nous n'aurons pas d'assistance technique et la course consiste à retrouver différentes balises en plein désert. J'ai la chance de faire un stage avec un mec qui s'appelait Ivan. Je dis c'était car il est mort, hélas, depuis. Un mec fantastique, d'un certain âge déjà, qui avait été dans l'armée et qui avait traversé l'Atlantique. Ivan, avec une boussole et un doigt mouillé, il naviguait partout. Cet apprentissage a été une révélation pour moi. Soudain, je me suis prise d'un amour inconsidéré pour la navigation terrestre. Et comme Isabelle préférait conduire, cela tombait bien. Nous suivons les mêmes stages pour être interchangeables. Moi qui n'ai jamais aimé ni les maths ni les chiffres, sauf la numérologie, j'ai été passionnée par ces calculs savants qui allaient m'empêcher de me perdre. Je m'entraînais dans ma cuisine à faire des triangulations avec ma boussole pour être le plus à l'aise possible et acquérir la rapidité nécessaire. Enfin, nous partons en avion pour la Mauritanie, tandis que notre 4x4 est envoyé par bateau depuis Le Havre. À l'époque, en 1997, la Mauritanie est encore un pays peu visité, où l'on va en voyageur, pas en touriste. Le pays n'est pas du tout développé. Même la capitale, une vraie ville du désert, n'a presque pas de route goudronnée. C'était calme, rien à voir avec aujourd'hui. Il n'y avait ni menace d'Al-Qaïda, ni menace de kidnapping. Un pays cool, mais où on ne trouve pas d'alcool, à part de la bière, à l'hôtel international. Or, avec Isa, on s'était promis de se boire l'apéro dans les dunes. Pour cela, il fallait acheminer de l'alcool, ce qui n'était pas vraiment permis. Rien à voir avec les interdictions d'aujourd'hui. On en avait discuté avant le départ avec mon père. Il avait dit « Les filles, vous voulez emmener quoi comme apéro ?» On ne savait pas. « De la vodka ?»« Non, » dit mon père. « Il n'y aura pas de glaçons là-bas. Il vous faut un truc qui dure, où vous pouvez ajouter de l'eau, comme le pastis par exemple. » On hésite. Oui, mais le pastis à l'eau chaude. Alors il nous donne son truc d'ancien d'Indochine. Ta gourde en métal. Tu la remplis d'eau, tu la mets dans une chaussette mouillée, tu l'accroches au rétroviseur, et les dernières heures du jour, tu roules, roule avec ça. Et elle sera fraîche le soir. Merci, papa. Au cours du rallye, après de dures journées, quand on avait bien récolté toutes nos balises et qu'on voyait le bivouac dans les jumelles, on se trouvait une dune. On montait à son sommet. On avait fait le truc de la chaussette mouillée bien avant. Alors, pour notre repos des guerrières, nous sortions nos gobelets militaires en métal, nous y versions un fond de pastaga, l'eau fraîche, une clope. Et là, c'était le plaisir suprême après l'effort. L'univers au-dessus de nous, et nous deux ensemble. Dans une communion totale. On remerciait le ciel d'être là, si vivante, de pouvoir ressentir intensément la beauté et la grandeur du monde. C'est un souvenir inaltérable qui me bouleverse encore chaque fois que j'y repense. Le jour du départ, je suis surexcitée. Une partie de moi flippe, comme si j'allais faire quelque chose d'irrémédiable. L'autre est enthousiasmée. À l'aéroport, j'achète une bouteille de pastis que je vide dans le thermos que j'avais apporté. Je referme bien le tout et glisse le thermos au milieu de mes affaires. Nous prenons l'avion et rencontrons les autres gazelles du rallye, dont l'actrice Fiona Gélin, À l'arrivée, je ne suis pas contrôlée et je réussis à passer ma bouteille de pastaga en douce. Nous découvrons le bivouac au bord de la mer, à la sortie de Nouakchott. Il est composé de tentes du désert, d'une grande tente pour manger et d'une autre qui sert d'infirmerie. C'est ma première rencontre avec l'Afrique, en dehors du Maghreb. J'étais une fana de Théodore Monod. J'avais lu tous ses livres. Ce Sahara qui tombe dans la mer, ce désert, me bouleverse. Avec Isa, toutes les deux en pleine communion, nous allons vivre en Mauritanie une expérience presque métaphysique. Ce sera beaucoup plus fort qu'au Maroc, où auront lieu les rallyes suivants. Peut-être parce que ce pays donne l'impression d'être encore plus loin de notre civilisation. Au bivouac de Nouakchott, nous avons une mauvaise surprise en retrouvant notre voiture. Tout y a rouillé à cause des embruns marins au cours de la traversée. On n'arrive même plus à ouvrir les cadenas. On est obligé de demander de l'aide pour les sectionner. Cette aventure commence par un bordel sans nom. Heureusement, on retrouve nos affaires et la voiture n'a pas été pillée, comme nous le craignons. Les organisateurs nous font un briefing détaillé. Demain, c'est le grand départ. Le soir, au moment du repas pris en commun, nous faisons la connaissance de Fiona Gélin, avec qui je deviens très copine. Au cours de ce premier dîner, je remarque les chèvres accrochées au camion et m'exclame naïvement « Ah, comme elles sont mignonnes !» Je n'avais pas encore compris que les mignonnes petites chèvres allaient nous servir de nourriture les jours suivants. Les deux médecins présents sont très sympathiques. On se découvre les uns les autres, on papote. Je ne sais pas pourquoi je lance dans la conversation que j'ai le brevet de secourisme, parce que ma mère était directrice de la Croix-Rouge et qu'il était obligatoire à ses yeux de le passer. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tard dans la soirée, un des deux médecins m'appelle. « Tu ne veux pas m'assister ? Je dois soigner l'abcès au bras d'un Mauritanien qui travaille aux cuisines. » Je donne volontiers ce coup de main. Le lendemain, confronté à la réalité du terrain, j'ai un moment de panique. Mes stages formidables avec des militaires dans les Alpes, mes exercices intensifs de triangulation dans ma cuisine, tout semble être parti en fumée. Je me retrouve en plein désert. Le soleil est déjà haut et je n'ai plus de repères nord-sud. Sortir sa boussole dans les Alpes, c'est facile. Alors que sortir sa boussole quand on a du sable sur 360 degrés, c'est très dur. Peu à peu, je commence à comprendre le paysage par rapport à ma carte. Il faut se rappeler qu'on n'avait même pas de GPS de secours pour nous retrouver si on se perdait. En cas de danger, on disposait de fusées de détresse et d'une radio qui ne fonctionnait pas toujours et qui était plombée. Si on déplombait pour appeler, on perdait 300 points. Le soir, nous n'avons trouvé que deux balises au lieu de trois. Je suis catastrophée. Isabelle, beaucoup moins. Quand nous arrivons au bivouac, la nuit est déjà tombée. On relève notre kilométrage, car il faut avoir fait le moins de kilomètres possible. Et on nous demande la feuille tamponnée prouvant notre passage à différents points. J'ouvre la boîte à gants. Pas de feuille. On fouille partout avec Isa. On se met la rate au courbouillon. Je commence même carrément à pleurer. Isa, je n'ai pas perdu cette feuille. Cette feuille ne s'est pas envolée, je l'ai mise là à tel moment. Elle confirme. Oui, je l'ai vue, je m'en rappelle. À ce moment-là, débarque la chef du rallye, Dominique Serra. Eh bien, si vous avez perdu la feuille, le rallye est fini pour vous. C'est rédhibitoire, terminé. Vous êtes hors concours. Je pense aux sponsors, aux gens qui nous ont fait confiance, aux copains des stupes qui vont se ficher de ma gueule. Et en plus, nous représentons la police nationale. C'est affreux. Je pars en courant, monte sur une dune et hurle de rage. Je ne peux pas croire que cela m'arrive à moi. Ce n'est pas possible. Heureusement, le commissaire de la course annonce qu'ayant bien relu les statuts, il estime que nous n'avons pas à être exclus, mais que nous aurons les pénalités de la moins bonne équipe de la journée. On se prend 200 sales points de pénalité, mais qu'importe. Nous étions toujours dans la course. Rien n'était perdu. Parmi les équipages, il y a celui des Marocaines, des filles extrêmement sympathiques. Fiona Gélin et sa coéquipière, une fille fortiche, dans leur Toyota Hilux, le pick-up de la légende, surnommée la sauterelle du désert. Un 4x4 qui passe partout. Il y a aussi les militaires canadiennes, deux filles costaudes et pêchues, et celles de l'armée de terre française, deux matas aux cheveux ras et aux épaules de Malabar. Et puis il y a nous, pour la police nationale. Cathy et Isa, 100 kilos à nous deux. On compte bien les battre. Oui, nous les fliquettes. On va réussir à ratatiner l'armée canadienne et l'armée française. Dans un état d'esprit de féroce et joyeuse compétition, le rallye continue. Tous les soirs, nous buvons rituellement notre pastaga au sommet d'une dune. Puis retour au bivouac, où nous préférons dormir à la belle étoile plutôt que sous les tentes. L'avant-dernier jour arrive. Une épreuve difficile, parce que c'est un marathon qui dure 2 jours. À nous de gérer la nuit. Unique nourriture, les rations de l'armée. Vers 15h, la chaleur est insupportable. Nous sommes en plein milieu des dunes, et Isa me dit « Dis donc, elle n'avance plus la voiture ?» En effet, on ne parvient plus à franchir les dunes. Isa accélère. Rien. La voiture n'a plus de souffle, plus de jus. On s'arrête, on ouvre le moteur, mais nous ne sommes pas des as de la mécanique. Nous voilà seuls, avec absolument personne à l'horizon. Nous hésitons longuement avant de demander du secours à l'organisation. Dieu sait combien de points de pénalité ce truc va encore nous coûter. C'est la déconfiture. Il faut déplomber la radio. On donne notre position de notre mieux, car dans le désert, la marge d'erreur peut être très importante. En attendant les secours, Isabelle va se poster en haut d'une dune, et moi je les guette. Assise sur le toit du 4x4, avec mon chèche et un nez de clown que j'emmène partout. Cela n'a pas du tout fait rire les gens du rallye, qui ont trouvé que je prenais les choses très à la légère. Mais je n'allais pas me suicider parce qu'on était en panne. Ils arrivent, ils réparent. Nous nous prenons toutes les pénalités du monde. Et ils concluent aimablement par ce verdict. De toute façon, vous n'avez pas assez de puissance avec cette voiture. Nous sommes obligés de rentrer directement au bivouac, sans faire la fin de l'épreuve. Je calcule l'emplacement du bivouac, je tire les traits, je sors ma boussole, et nous rentrons tout doucement. En chemin, nous croisons Thierry, un des toubibs, avec son chauffeur mauritanien. Il s'arrête. « Ben ça alors, les fliquettes, qu'est-ce que vous faites ici ?» On lui raconte nos malheurs. On geint. On pleurniche d'humiliation. Il dit « Oh les filles, c'est rien !» et il nous propose de venir avec lui soigner des gens dans un village de nomades. Nous acceptons avec enthousiasme. Un peu de vraie vie ne peut que nous remettre les idées en place. Le village est à quelques kilomètres. On laisse le toubib aller devant. Dès que les nomades apprennent qu'il y a un médecin, informés par le bouche à oreille, ils accourent pour consulter. Thierry reçoit les patients sous une tente. Nous aidons à rentrer des chameaux, des chèvres. Nous nous amusons avec les enfants. Avec mon appareil jetable, je fais des photos. Je bois du lait de chèvre dans une jatte, fait d'un gros fruit sec coupé en deux. Soudain, Thierry sort de la tente et nous dit « Les filles, il faut que je vous parle. Il y a une femme ici qui est gravement malade. Elle a un abcès mammaire. Son sein est gros comme un ballon de foot. Et elle a accouché il y a un mois. Il faut l'opérer. On ne peut rien faire d'autre. Mais je ne peux pas opérer seule. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Si vous dites non, je comprendrai. Mais si vous dites non, elle va mourir. » Alors évidemment, on a dit oui, comme un seul homme. Comme j'ai mon brevet de secourisme, c'est moi qui dois faire l'assistante. Il n'y a pas d'électricité et Isa est chargée d'improviser un éclairage. Isa a la lumière ce soir-là. C'était comme au théâtre ce soir. Les costumes sont de Roger Hart et les lumières de Donald Cardwell. Elle prend dans notre 4x4 les deux grandes maglite, des lampes torches puissantes, qu'elle va tenir à bout de bras, comme un perchman sur un tournage, pendant 1h30 sans faiblir. Moi, je suis à genoux à côté du médecin. Tout le village s'est assis en arc de cercle autour de nous, pour surveiller l'opération. Les hommes devant, les femmes derrière. Nous allongeons la malade. Elle s'était fait des emplâtres debout sur le sein. Quand on la déshabille, il faut gratter pour les enlever. Thierry a déjà son masque. À nous de gérer les gants et le sac de masques que nous avons dépliés. Il me parle alors comme si j'étais une infirmière chevronnée. Avant de commencer, il m'ordonne de répéter à chaque fois le mot qu'il emploie. Alors, quand il dit « bétadine », je répète docilement « bétadine » et je la lui passe. Seringue de 10, seringue de 10, scalpel, etc. Il y avait des trucs que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai tenu bon parce que pour les Mauritaniens tout autour, moi aussi j'étais un toubib. S'ils avaient su que j'étais policier au stup, on allait tous mourir. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour supporter l'opération. Thierry incise le sein, ça gicle de partout, c'est l'horreur. Comme il est impossible de faire une anesthésie générale dans ces conditions, il lui fait une anesthésie locale bien chargée, tandis qu'elle fume du kiff à fond les manettes. Il opère, on pose les drains, les compresses. Ça dure un temps infini. La difficulté est accrue par le fait que les gens de ce village ne parlent pas français, à part un très vieil homme qui comprend un peu. L'opération se termine sans dommage, un vrai miracle. On leur laisse des antibiotiques. J'explique quand et comment les prendre en dessinant, sur le sable bien tassé sous la tente, des lunes et des soleils que j'entoure d'un fil de fer pour qu'ils ne soient pas effacés. Devant chaque dessin, je pose les comprimés découpés pour qu'elle comprenne bien ce qu'elle devra prendre pour guérir après l'opération. Nous repartons, vraiment heureux. Je n'arrête pas de répéter. Mais est-ce que c'est sûr qu'elle vivra ? Je ne sais pas, me répond Thierry. Mais sans cette opération, elle serait morte. C'est un moment d'une grande magie. Cela peut paraître futile d'aller s'amuser dans le désert, même si on le fait pour des raisons qui ne le sont pas, comme la rencontre avec soi-même, le dépassement de ses propres limites, l'obligation de se confronter à une nature émerveillante et sans pitié. Mais rien ne peut dépasser cette sensation d'universalité, de communion, d'amitié avec des gens qu'on ne reverra peut-être jamais, mais qui nous ont fait confiance pour la vie d'un des leurs. Ce sera un des plus beaux souvenirs des 4 rallyes que j'ai faits dans ma vie. Depuis le début, on aura été en osmose avec Isa. Jamais de désaccord. Ou alors de tout petit. Et puis l'autre explique, et tout se passe dans une grande rondeur. On a la même niaque. Est-ce parce qu'Isa est du signe du bélier, et moi un lion ascendant bélier ? On fonce ensemble, toutes les deux, avec la même joie. Isa, aujourd'hui disparue. Ma belle et intelligente Isa. avec qui je me suis toujours sentie à l'unisson. Dès le début de la course, on s'était mis d'accord. Il y en aura une qui conduira et une qui naviguera, même si de temps en temps on inversera les rôles. Mais en cas de pépin, on dira toujours « nous ». Nous, nous sommes perdus, même si se perdre, c'est plutôt de la faute du navigateur. Nous avons pété deux roues, même si c'est plutôt de la responsabilité de celle qui conduit. Ultime fantaisie avant le départ, nous avions aussi décidé, c'était nouveau, cela ne se faisait pas encore au rallye des gazelles, qu'on serait habillés de la même façon du premier au dernier jour, en bermuda et t-shirt identique, même couleur, même patogas et même robe de soirée pour le gala de clôture. Pour nous habiller de propre dans le désert, nous avions une technique. Nous avions enfermé tous nos habits dans des sacs de congélation. Dans un sac, il y avait un t-shirt, des sous-vêtements, des chaussettes. Ce qui fait que chaque matin, même par un fort vent de sable, on tirait un sachet, on s'habillait propre. On remettait les habits sales dans le sac et le tout dans la malle. Même principe pour notre tenue de soirée à la fin de rallye, une des fêtes les plus extravagantes de ma vie, à la résidence de l'ambassadeur d'Espagne. C'était un homme remarquable, qui s'est malheureusement suicidé quelques années plus tard. Il était venu nous voir jusqu'à nous à Dibou et nous avait apporté des huîtres fraîches en plein désert, avec son petit avion privé. Une arrivée inoubliable, un truc de la mort qui tue. La course se termine. Nous devions finir à la 5e place, mais nous avions tellement de points à rattraper que nous avons été classés 11e seulement. Ce n'était pas brillant, mais pas la cata non plus. On était quand même loin devant les Canadiennes et l'équipage de l'armée de terre. Ni une ni deux, pas dégonflés, nous nous sommes dit « Banco, on recommence ». Puisqu'on a gagné une étape, on peut en gagner plein. On a le niveau pour ça. D'ailleurs, à peine de retour en France, nous allons faire un lobbying effréné auprès de nos sponsors et nous nous réinscrivons pour l'année suivante. Pour ce deuxième rallye des gazelles, au Maroc cette fois-ci, il nous faudra trouver une voiture plus maniable et plus puissante. Au bivouac de Nouakchott, le dernier jour, toutes les gazelles démontent leur voiture pour la nettoyer et en ôter tout le sable. Dans un interstice infime de la boîte à gants, je découvre alors une mince feuille de papier, inextricablement enroulée autour des fils de connexion des essuie-glaces. Je la récupère délicatement, intriguée, et je pousse un rugissement. C'était elle, cette fichue feuille d'étape, que nous avons cherchée partout, qui nous a valu 200 points de pénalité et a failli nous faire exclure du rallye dès le début. Ah, la garce de feuille! En tout cas, j'avais raison. Je ne l'avais pas perdue. Pour le deuxième rallye, que nous faisons au moment de nos jours de congé, bien sûr, la police que nous représentons ne nous donne pas un centime, mais nous fait cadeau de deux combinaisons ainsi que de deux vieux lits de camp des CRS des années 60 qui pèsent 25 kilos chacun. Merci les gars. Cette année-là, nous arrivons à la 3e place et nous commençons à prendre l'histoire très au sérieux. Je travaille sur le rallye dès que je ne bosse pas au stup. J'écris des courriers, je prends des rendez-vous pour trouver des sponsors. 3 fois par semaine, à 7h pile, je nage mon kilomètre à la piscine pontoise. Isa fait pareil. Pour le 3e rallye, il va falloir cartonner. Et nous avons décidé d'être à fond les ballons. Je dis à Isa. Isa, mon rêve, c'est de faire cette course en Hummer. Le Hummer, c'était le nouveau véhicule qui avait remplacé les Jeeps de l'armée américaine pendant la guerre du Golfe. Un 4x4 génial, hyper puissant, fait pour le désert. On pourrait grimper au mur avec. « Bonne idée, » dit Isabelle, comme s'il s'agissait de quelque chose de tout à fait réalisable. Cette fille était hors du commun. Quand je pense à elle, elle est morte d'un cancer il y a 7 ans. J'ai le cœur troué de tristesse. Une part de moi s'est enfuie avec elle. Isa montrait un sang-froid et une sûreté admirable dans toutes ses actions, tout en étant pleine de délicatesse. Mon père était, à l'époque, en fin de vie, lui aussi à cause d'un cancer. Chez lui, à Vierzon, il avait affiché au mur la carte du Maroc et il y cochait tous les jours chacune de nos étapes. Il ne loupait aucune des émissions de télé qui parlaient de nous, alors qu'il était si malade. C'était notre meilleur supporter. Comme s'il s'évadait à nos côtés et partageait notre joie pendant ces derniers mois de sa vie. Nous venions de rentrer du Maroc en bateau et de débarquer à Sète. Je voulais passer par Lyon. Isa m'a dit qu'on allait plutôt passer par Montluçon. En fait, elle avait prévu de faire un détour par Vierzon pour que je puisse embrasser mon père et qu'il voie en vrai la voiture du rallye. J'ai encore la photo de ce jour-là, de très mauvaise qualité, prise avec un appareil jetable. On y voit mon papa, ma maman et Isabelle, posant devant notre gros 4x4 du désert. Tous disparus. C'était un jour inaltérable, de pur amour. Nous rempilons pour un troisième rallye. Mon père va de plus en plus mal. Il mourra le mois d'après. Au cours de ce mois de septembre, Isa me dit de me faire belle, qu'elle a une surprise pour moi. Elle vient me chercher dans sa 309. Nous filons sur l'autoroute. Je meurs de curiosité. C'est quoi la surprise ? Voulant exaucer mon rêve, elle a carrément pris rendez-vous chez le représentant exclusif des 4x4 Hummer à Montlhéry. Nous nous pointons chez le célèbre fabricant de véhicules militaires, toutes les deux en tailleur, belles comme des soleils. Le mec nous reçoit, un peu étonné. Je ne sais plus laquelle a parlé la première. « Nous voudrions que vous nous prêtiez un Hummer. » Il nous regarde comme deux extraterrestres. « On va vous expliquer. » Alors nous attaquons le morceau. Il faut dire qu'on avait un peu de biscuit, car après le deuxième rallye, la presse s'était pas mal intéressée à nous. Partout, dans des reportages télé, dans les magazines spécialisés comme l'Automobile Magazine, dans les journaux internes et professionnels de la police, on parlait des fliquettes, comme nous appelaient les journalistes, et parfois sur plusieurs pages. On lui montre notre revue de presse internationale. Les journaux chiliens, canadiens, américains s'étaient aussi emparés du sujet. On lui dit qu'en faisant le rallye en Hummer et non en Toyota, on allait faire un tabac. D'autant plus qu'on représentait la police nationale et que ce serait une campagne de pub formidable pour lui. Le type nous regarde, amusé. « Écoutez, c'est pas mal votre truc. Mais il faut que j'aie une autorisation de Hummer États-Unis. Et puis, il faut que je réfléchisse parce que vous ne me demandez pas de la petite bière, hein. Un Hummer, ça vaut 1 million de francs. » Il nous promet une réponse dans un mois. Entre-temps, mon père meurt. Je pars pour me refaire une santé psychologique au Cambodge avec Philippe, mon compagnon de l'époque. J'avais dit à ma mère, « Un jour, Isabelle va t'appeler. Elle va te dire si le Hummer, c'est oui ou non, et tu noteras bien ce qu'elle te dira. » Ma mère n'avait aucune idée de ce que pouvait être un Hummer. Le voyage au Cambodge me fait grand bien. Un matin, sur le chemin de ma guest house à 10 dollars, je vois une cabine publique. J'appelle ma mère. « Il faut que je te dise un truc, » me dit-elle. « Isabelle a appelé, et elle a dit que le Hummer, c'est oui. » Je me suis assise par terre dans la cabine. J'ai pleuré, pour toutes sortes de raisons, en pensant à mon père certainement, et aussi à l'amitié d'Isabelle. Quand on a dit aux organisateurs du rallye qu'on partait en Hummer, ils étaient comme des fous. Nous avions vu juste. Pour eux, c'était une publicité supplémentaire. Quant à M. Courtin, le fondateur de Clarins, notre premier sponsor, Il s'est contenté de demander de quelle couleur serait le humeur. Il sera rouge. Allez hop, rouge comme l'eau dynamisante de chez Clarins. Cette année-là, nos sponsors nous réservent le Berkeley, avenue Matignon, en bas des Champs-Élysées. La police est obligée de bloquer la rue. Les journalistes s'empressent autour de nous. On nous prend en photo dans tous les sens. C'était délirant. Hummer avait une exigence. Nous devions partir sans roue de secours. Pour eux, les roues d'un Hummer ne pouvaient pas crever. Nous sommes tout de même obligés d'en emporter une. C'est le règlement que l'organisation du rallye nous donne et dont nous voyons tout de suite qu'elle ne nous dépannera jamais. Mais baste, nous partons. Les premiers jours, nous gagnons quasiment toutes les étapes. Puis un matin, lors d'un départ en ligne, imaginé spécialement pour les journalistes, car cela donne une très belle séquence, notre pneu Hummer increvable éclate sur un caillou. On descend, on regarde. Cette fichue pierre ressemble à du mica. Le pneu est complètement déchiré et la roue pèse au moins 45 kilos. On arrive à la changer grâce à l'aide de copines du rallye. Nous repartons. Nous sommes dans la montagne, sur des chemins de caillasse. Ce n'est pas du sable et le pneu crève à nouveau. Là, on est vraiment dans la mouise, puisqu'on n'a plus de roue de secours. On appelle l'organisation, bien obligé, ce qui ne nous était jamais arrivé depuis la Mauritanie. Et en avant pour les pénalités. Malheureusement, pour réparer le pneu, ils le colmatent. Ce qui nous désespère, car cela nous empêchera par la suite de dégonfler les pneus pour les rendre comme des pattes de chameau. S'ils sont gonflés à 3 kilos, c'est impossible d'avancer dans le sable. Comme par un fait exprès, c'est le lendemain que doit avoir lieu l'épreuve des dunes. Le lendemain, comme nous le craignons, nous nous enfonçons dans le sable en plein milieu du désert. Je sors le treuil. Il fait une chaleur épouvantable. Nous suons sang et eau pour nous sortir de là, et cela va nous prendre toute la journée. Nous atteignons la dernière balise in extremis, juste au moment où on allait l'enlever. C'est déjà la fin du jour. Nous étions les premières et nous voilà rétrogradées en quatrième place. C'est hors de question pour moi. Je dis à Isabelle. On pète tout. La bagnole, tout. Je m'en fous. Mais on finira pas quatrième. Le lendemain, nous repartons, remontés comme des coucous, prêtes à tout pour gagner. Ce jour-là, il y avait un journaliste, embedded, avec nous à l'arrière du Hummer. On arrive à un cirque de rochers, avec une seule ouverture. Au fond du cirque, la balise. Pour y arriver, il fallait contourner la montagne et faire 27 kilomètres difficiles. En montant tout droit vers le haut de la montagne et en redescendant la pente de l'autre côté, cela ne nous ferait plus que 9 kilomètres. On décide de tenter le coup. « Ouais, génial !» crie le journaliste, qui prend des notes comme un fou. Isa prend de l'élan. On monte, on se retrouve à la verticale. Le journaliste devient vert et ne dit plus un mot. On ne sait pas ce qu'on va découvrir en haut. Peut-être un ravin. Arrivé au sommet, nous nous retrouvons sur une pente abrupte, dans un éboulement de pierres. Il faut sortir et enlever les plus grosses, celles qui vont empêcher le Hummer de passer. L'avantage de ce véhicule hors du commun, c'est qu'il est en frein constant. Il ne peut pas dévaler la côte. Il sait se tenir. Je marche juste devant la voiture, accroché sur la pente comme un arapède sur son rocher. J'enlève les gros cailloux, un à un. À l'arrière du Hummer, le journaliste, malade de trouille, vomit dans le vide. On continue ainsi notre descente tout doucement, en craignant le pire jusqu'à la balise. Le temps et le kilométrage gagnés nous placent au troisième rang du rallye, encore une fois. La retombée médiatique est phénoménale. Nous sommes invités absolument partout. on nous fête de façon extraordinaire. L'année d'après, nous nous réinscrivons pour un quatrième et dernier rallye. Notre monsieur Hummer, qui est devenu un ami, nous prête cette fois-ci un Ford F-250, un 4x4 qui n'est pas encore commercialisé en France. Notre cher vieux Hummer sera racheté par le chanteur Florent Pagny et vivra sa vie de 4x4 dans son hacienda de 4000 hectares au fin fond de la Patagonie. Le Ford F-250 est un 4x4 pour surfeur, avec un grand plateau à l'arrière. Il a un gros défaut. Dès qu'on s'arrête, il s'enfonce dans le sable. Donc on ne peut, on ne doit jamais s'arrêter. Pour la dernière étape du dernier jour, alors qu'il reste encore 16 km de dunes à traverser, nous avons un problème de pneus. Il est 14h. Il fait un cagnard de ouf. 50 degrés sous un ciel implacable. Je prends mon camelback, un sac à eau qu'on porte sur le dos comme une bosse de chameau, avec une pipette pour boire directement, et je commence à courir devant la voiture. J'ai couru ainsi pendant les 16 bornes avec ma boussole, sans me permettre d'hésiter sur la direction à prendre, puisqu'il ne fallait pas que ce satané Ford s'arrête. Le même soir, une tempête de sable emporte notre bivouac. Les organisateurs, contactés, nous disent de nous mettre à l'abri. Et un mec du rallye nous dit d'arrêter tout et de rentrer. « Négatif !» lui répondons-nous. « Nous, on ne rentre pas. » On pointe la dernière balise. Isa m'attache avec une corde devant le Ford. Et c'est ainsi, dans le vent de sable et la nuit, que nous avons parcouru les 10 derniers kilomètres. À l'arrivée à l'hôtel, mes copines Solange et Françoise, qui sont médecins et pharmaciennes, m'ont fait une perfusion. Je ne tenais plus sur mes jambes. J'avais perdu je ne sais combien de kilos. J'étais l'ombre de moi-même. Mais nous étions les deuxièmes du rallye sur le podium.